Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Alpe d'Huez. Nous sommes très heureux de vous accompagner ce matin, le samedi, le dimanche. Vous le savez, le week-end de 9h à midi en direct à la radio. En direct également sur la chaîne YouTube d'RMC Sport si vous voulez admirer nos GG. N'hésitez pas aussi à nous regarder. Ce matin, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André. Dans quelques instants, le dossier des GG. Nous parlerons du Stade Toulousain qui joue sa première journée de Champions Cup cet après-midi. Croyez-vous à l'embourgeoisement des Toulousains, on se posera la question dans quelques instants. L'OM doit redevenir la meilleure équipe en France. Geronimo Rulli, le gardien de l'OM, est dans la punchline des GG à 10h30 et puis 10h45. Les GG contre-attaquent. Mes GG, vous avez préparé un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. À vous de convaincre les auditeurs. Quel débat avez-vous envie de faire? Sarah Pitkowski, tu proposes quoi?
Moi, j'aimerais bien vous raconter l'histoire de Violette. Violette d'Orange qui vient de passer le cap de Bonne-Espérance. C'est la petite Benjamine de ce Vendée Globe qui est devenue une star depuis qu'elle est partie sur Uber. C'était le bateau de Jean Le Cam. Et j'ai plein de questions à vous poser parce qu'elle est en train de dépoussiérer véritablement la voile.
Ok, c'est le débat Vendée Globe proposé par Sarah Pitkowski. Christophe Cessieux, tu
vois. Oui, moi j'ai envie de... Vous connaissez un jeune garçon qu'on surnomme le petit Prost? C'est pas évident
à porter
comme surnom. Et bah oui, bah moi je vais vous parler de ce garçon qui s'appelle Isaac Hadjar et qui pourrait devenir dans quelques jours le troisième pilote français de Formule 1 actuel. Évidemment, il y en a eu d'autres dans le passé, notamment Alain Prost, mais qu'il est peut-être en passe de décrocher un volant en Formule 1.
Ouais, ce serait une histoire absolument incroyable. Il est très jeune et il cartonne actuellement. Philippe Saint-André, ta proposition?
Ouais, bah moi, Antoine Dupont et les joueurs premium, donc les meilleurs joueurs de l'équipe de France, ne joueront sûrement jamais en Nouvelle-Zélande. Alors, quelle tristesse. Nous, à notre génération, nos plus beaux souvenirs sont en Nouvelle-Zélande. Et après, et si les All Blacks venaient au mois de novembre avec les Baby Blacks? Qu'est-ce qu'on dirait?
On en a parlé hier, mais moi, j'ai bien envie de t'entendre quand même sur ton souvenir de la coupe, de cette tournée en Nouvelle-Zélande en 94, quand même. Hein. Je crois que c'est ton plus beau souvenir de rugbyman, j'en parlais hier.
Exactement.
Et tu regretterais.
Mais alors, c'est le sujet, là. Donc, le sujet de Philippe, il est intemporel. On peut le faire la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. Celui de Christophe aussi, on va attendre de savoir.
Bah oui, et le tien.
Violette, c'est dans deux mois l'arrivée.
Violette n'est pas encore arrivée.
Non, Violette, elle n'est pas arrivée.
Elle prend le temps.
Mais
en plus,
Violette, elle n'est pas arrivée, mais je peux te dire qu'elle est en train de rentrer dans les mers du Sud et je ne pense pas qu'il y en ait un autour de la table qui oserait même mettre un pied sur son bateau.
On est bien d'accord.
Ok, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut voter pour Violette.
Bravo Violette, on en parlera peut-être plus tard. En tout cas, elle se défend bien. C'est sur le compte X des grandes gueules du sport. Et puis évidemment, vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Si vous voulez intervenir dans cette émission, vous composez le 32-16. Et si vous voulez affronter une GG, ce sera à 11h45. Allez, on débute cette nouvelle heure avec cette citation d'Arthur Rimbaud qui a dit un jour: je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort.
RMC, le dossier des GG.
C'est terminé. Victoire toulousaine, 20-11. Et c'est déjà la deuxième défaite à domicile pour le MHR.
C'est la piquette, Jack.
Victoire 31-22 du Stade Toulousain qui remporte la guerre des étoiles. La sixième étoile va du côté du Capitole.
C'est tellement facile pour ces mecs.
57-5. Énorme carton toulousain face à Toulon. Et avec cette victoire bonifiée, le Stade Toulousain est 5 points au classement de plus. Prend le contrôle du top 14.
Pas de concurrence, pas d'histoire.
Sans ces internationaux, Toulouse prend le bonus. 41-9, 6 essais à 0. Le Stade Toulousain 35 points, 6 points d'avance ce soir sur l'Union Bordeaux-Bègles, alors que Perpignan est 10e.
C'est trop facile.
Le Racing était revenu, était passé devant, mené à 17-11 en deuxième période, mais il s'incline finalement 21-17. Le Stade Toulousain aura été plus fort cet après-midi à Créteil. Nouvelle victoire du leader toulousain.
Du matin, il s'est beaucoup trop fort.
Allez, le Stade Toulousain.
Cet après-midi, le Stade Toulousain remet son titre en jeu en Champions Cup, son titre européen. Évidemment, nouvelle aventure européenne qui démarre à domicile face à l'Ulster. Après avoir tout gagné la saison dernière, les Toulousains sont forcément, comme chaque année, attendus au tournant, eux qui écrasent déjà la concurrence en top 14. L'embourgeoisement nous pend au nez tous les jours, a déclaré Hugo Mola dans les colonnes de l'équipe cette semaine, comme pour prévenir son effectif. Que dis-je, son effectif, son armada, que rien ne sera gagné d'avance. Le Stade Toulousain peut-il vraiment s'embourgeoiser? On va se poser la question dans quelques instants. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, commentateur rugby évidemment sur RMC, notre voix, suiveur du 15 de France, et Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Le 15 de France et le Stade Toulousain, notre correspondant, mon cher Wilfried. Est-ce que ce Stade Toulousain a toujours autant faim ?
On peut se poser la question quand ce club sort d'un doublé top 14 Champions Cup, quand ce club a remporté 4 boucliers de Brennus et 2 titres européens depuis 2019. On peut se demander ce qui fait courir ce Stade Toulousain-là. On l'a posé cette question à l'arrière international Thomas Ramos, qui lui a un début de réponse.
Quand on gagne des titres, on a forcément envie, un, d'y regoûter, et deux, de pas voir d'autres équipes réaliser ce qu'on a fait auparavant. Donc je crois que tout sportif et toute équipe n'a pas envie de voir un autre club soulever un trophée à sa place. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une poignée d'équipes qui sont susceptibles de pouvoir gagner cette Champions Cup, et on en fait partie. Donc à nous d'être à la hauteur des week-ends.
Voilà un levier de motivation. Ne surtout pas laisser la place aux autres dans cette épreuve qui plus est. Les Toulousains ont toujours été transcendés au moment de se frotter au Gotha européen et maintenant sud-africain. C'est le capitaine Antoine Dupont qui le confirme.
Le club a eu une histoire forte avec cette compétition, on le sait. Moi, j'ai pu le ressentir dès que je suis arrivé ici, où il y a toujours une tension particulière, une attention particulière les semaines de Coupe d'Europe. Dans l'équipe, le staff, l'entourage, c'est une compétition qui compte beaucoup pour le club. On sait aussi que c'est un sprint. À chaque fois, il faut gagner tous les matchs, donc on n'a pas le temps d'avoir un rodage. Et c'est pour ça qu'on est obligé de mettre l'accent de suite.
Alors le point de départ de cette relation particulière, en fait c'est 1996, relation particulière avec la Coupe d'Europe. Toulouse a remporté la première en battant Cardiff au Pays de Galles à Cardiff, et il y a pris goût. 6 trophées dans l'histoire, c'est un record. Et puis comme dans ce club on aime bien se trouver des aventures, en voici une nouvelle. Cette compétition faite cette année, la 30e édition, et la finale entre guillemets anniversaire, sera à Cardiff évidemment. Le manager toulousain Hugo Mola, qui faisait lui-même partie de l'équipe de 96, y voit ainsi.
Il y a une forme d'histoire, particulièrement sur les 30 ans, où la première épopée européenne remportée par la génération où j'ai eu la chance d'évoluer, et à Cardiff de plus est, donc nous confère une forme de, je sais pas, d'affection et d'attractivité liée à cette compétition. Donc oui, cette compétition nous oblige à être au niveau, et cette compétition nous attire.
Voilà pour le volet motivation, avec un dernier enjeu supplémentaire, messieurs, dames, pour cette génération qui est toujours avide de faire mieux que ses aînés. Dans son histoire, le Stade Toulousain n'a jamais conservé un titre européen d'une saison sur l'autre.
Et ben voilà, c'est un objectif pour le Stade Toulousain. Tu commenteras cette rencontre cet après-midi sur RMC. Tu restes avec nous. Wilfried Templier, le Stade Toulousain peut-il vraiment s'embourgeoiser ? Christophe,
c'est un objectif et c'est même un challenge entre les joueurs actuels et le staff, parce que dans le staff du Stade Toulousain, tu as que des anciens, des générations précédentes qui ont aussi gagné, qui ont aussi écrasé le rugby français, le rugby européen à leur époque. Et il y a un challenge entre les uns et les autres. Les coachs d'ailleurs, il y a quelques temps, disaient oui, vous êtes bons, mais vous n'avez pas encore marqué l'histoire. Depuis, ils ont encore gagné des titres et ils ont marqué l'histoire. Non, moi je crois que le Stade Toulousain ne risque pas l'embourgeoisement, et je pense que c'est surtout une position d'Hugo Mola, histoire évidemment de continuer à mobiliser un groupe dont on sait que l'enchaînement des victoires peut parfois jouer le rôle de somnifère, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas à Toulouse. Il y a une telle densité dans ce club, dans cette équipe, que t'es en compétition tous les jours. Quand tu vois le nombre de troisième ligne, quand tu vois même aujourd'hui Romain Tama, qui est pourtant officiel titulaire au poste de 10 en équipe de France et au Stade Toulousain, mais quand Hugo Mola et Galtier voient les performances réalisées par Ramos, je suis sûr que Mola peut se poser la question, et donc Ntama qui revient avec les dents qui règle le parquet.
Comme l'année dernière, Thomas Ramos n'était pas plus titulaire à un
Exactement.
Moment donné.
Il les met en concurrence, ouais. Il les met en compétition les uns et les autres, et donc tu peux pas t'endormir si tu es pas assuré de jouer dans ton équipe le week-end d'après. Donc en bourgeoisement, je pense pas, et puis ça fait tellement d'années qu'il domine. Et j'avais fait le calcul hier, ils en sont à 16 titres de champion de France en 39 dans les 39 dernières saisons. C'est quasiment un titre
sur deux
tous les deux ans, quoi. C'est dingue. Donc en bourgeoisement, j'y crois pas. Non.
Ok, ouais. Tu n'y crois pas. C'est de la com, Philippe.
Mais bien sûr, c'est de la com. S'ils étaient en bourgeoisés, ils seraient en difficulté en top 14. 11 journées de top 14, ils ont 39 points, ils sont premiers du top 14. Et en plus, ils ont une génération incroyable. Ils veulent tout gagner. Ils veulent être la meilleure génération du Stade Toulousain, et en plus Hugo Mola, il a 50 joueurs. S'il y a un joueur qui s'embourgeoise, et il le met Il le met avec les espoirs, il le met de côté pendant 3-4 semaines, et le mec va revenir avec des crocs. Donc non, je pense qu'il a une armada incroyable. Après, Hugo Mola connaît bien ses joueurs, il est très bon dans la communication, il a très bien géré son effectif la saison dernière. Quand tu vois que la saison dernière, un Antoine Dupont n'a pas énormément joué, mais il a toujours été déterminant lors des gros matchs.
Ok, Sarah, donc si je comprends bien Christophe et Philippe, c'est ça qui les fait courir, c'est être la meilleure génération. C'est pas à la rigueur battre ses adversaires, mais c'est se battre contre eux-mêmes pour justement prouver aux autres que les meilleurs Toulousains, c'était eux.
Pas que, il y a ça, mais au-delà de la com, alors déjà je pense qu'ils sont, s'il y a bien un club qui est totalement à l'abri de l'embourgeoisement, je dirais bien que c'est le Stade Toulousain.
Bien sûr.
C'est pas uniquement de la com ce que fait Hugo Mola, c'est un fantastique manager, c'est-à-dire d'être capable de piquer ses joueurs, de les laisser sous tension. Alors évidemment, il a un effectif qui va avec, mais c'est super bien managé d'être capable de toujours créer l'émulation et puis de leur dire, mais et les gars, ben non, vous n'êtes pas encore la meilleure génération, il y a encore du chemin à faire. Alors évidemment, il passe par la presse pour envoyer ça, mais au-delà de la com, moi je trouve que c'est un fantastique manager. Et quand tu lis ses propos dans cette interview où il dit l'embourgeoisement nous pend au nez, derrière, quand tu lis l'article, en fait, il est en train de parler d'excellence. Il est en train de rechercher d'excellence, de rigueur, d'intention de jeu. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de résultat, il parle d'intention. Parce que le résultat n'est qu'une conséquence de ton investissement. N'est-ce pas, monsieur Kylian Mbappé? Mais là, c'est pour revenir au débat de tout à l'heure. Mais donc, en fait, c'est avec un effectif, avec des jeunes qui poussent derrière. Enfin, c'est un moyen de garder tout le monde sous tension. Donc, l'embourgeoisement, ils sont à l'abri, mais à l'abri.
Puis après, le Stade Toulousain, c'est une institution. L'institution est très forte.
Elle
aussi.
Est très forte. Mais ça t'empêche pas de.
Le seul risque du Stade Toulousain et de ses supporters, c'est pas l'embourgeoisement, c'est l'emboulardisation.
C'est-à-dire que. Alors, j'en ai entendu parler.
Ah non, évidemment. Je veux pas que tu nous fâches avec nos amis toulousains.
Ah non, je les adore. J'ai plein de potes à Toulouse, mais on se chambre souvent là-dessus parce que c'est vrai que surtout les supporters, les joueurs. Ils essayent de cacher un peu ça. C'est vrai que quand tu gagnes génération après génération, que tu sois en club ou en équipe de France, t'as plutôt tendance à prendre la grosse tête. Et ceux qui ont la grosse tête à Toulouse, ce sont surtout les supporters qui sont assez dédaigneux vis-à-vis des supporters des autres équipes. Et lorsqu'ils arrivent, mais ça a été de tout temps. Mais c'est normal. Quand tu gagnes tout, au bout d'un moment, tu prends un peu le boulard. Et d'ailleurs, souvent les Toulousains rigolent.
On vient, on gagne, et on s'en va.
Voilà, ça c'est. Ils arrivaient quelque part. Moi, je me rappelle, Wilfried parlait tout à l'heure de ce premier titre de champion d'Europe en 96 à Cardiff. Moi, je commentais ce match. C'était un de mes premiers commentaires.
Ah bah, disons,
et bah, déjà, les Toulousains étaient venus avec ça. On vient, on gagne, on s'en va. Effectivement, ils étaient venus, ils avaient gagné, ils étaient partis.
Notre commentateur, la voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier, est toujours avec nous. Wilfried, hier en conférence de presse, on a été assez surpris, et on l'a diffusé d'ailleurs dans cette émission, le coup de gueule de Thomas Ramos, mais il n'y a pas eu que lui. Énervé, un peu vexé de ce format de la Champions Cup qui les a vus hériter.
Ce manque de transparence de ce tirage au sort.
Bah, hériter oui, d'une poule extrêmement compliquée. Ouais. Est-ce que ça, c'est un moment de tension, un moment de difficulté en se disant attention, on peut déjà se faire attraper dès le premier tour? Est-ce qu'il y a une petite faille là? Est-ce qu'il faut le voir comme ça?
Non, bah, c'est qu'ils estiment qu'ils ne sont pas récompensés de leurs efforts. Il n'y a pas comme en foot, on peut avoir tirage au sort avec les boules et on voit le détail du tirage au sort. Et les poules sortent un peu comme ça avec le PCR, l'organisme européen. Donc ça les embête un peu de gagner. Mais c'est arrivé à La Rochelle qui avait été champion, qui avait eu le Leinster dans sa poule, qui avait une poule relevée. Et là ils estiment que ça sert à rien de gagner en fait, parce qu'on se retrouve avec des gros clubs. Voilà, même si ils jouent un peu de ça parce qu'ils ont.
Ah, après,
ils vont
surtout en
Afrique du Sud, ils vont aux Sharks. Oui, ils vont aux Sharks.
C'est un os à ronger. Hein.
Voilà, mais c'est surtout que c'est un peu opaque. Voilà, c'est ce qu'ils ont voulu dire, quoi. Voilà. Après, pour continuer sur le débat, cette génération, elle veut même au-delà de Christophe le disait, de marquer l'histoire du club, parce que dans le staff précisément, certains ont 3 coupes d'Europe, et cette génération n'en a que 2 entre guillemets, que 2 au palmarès. Mais Hugo Mola disait même que certains joueurs, je pense à Antoine Dupont et compagnie, veulent aussi marquer leur sport. Au-delà et marquer le sport français, c'est-à-dire que je sais que dans les conversations il y avait eu l'exemple des Chicago Bulls de Michael Jordan. Alors avec toute
l'humilité du que vous qui vous caractérise le rugby. Oui, j'entends.
Non, mais aller chercher au-delà de son club, au-delà de son club, aller marquer l'histoire de son sport. Et sur 10 ans, ils sont quand même bien partis hein, depuis 2019.
Oui, là, parce que là, Wilfried, tu parlais
de quelque chose d'incroyable.
Tu parles de cet encadrement qui a déjà 4 Coupes d'Europe, mais ils ont 2 Coupes d'Europe en 5 saisons. Il y a aussi le fait d'avoir cette hégémonie en un minimum de temps. Ils ont 6 titres en 5 saisons. Ça se compare aux générations précédentes.
Non, mais ils ont Bouillou et Poitronneau qui ont des Coupes d'Europe en 2003, 2005 et 2010. Voilà, qui en ont 3, tout simplement. Alors, ils ont déjà beaucoup de boucliers de Brennus. Hein, 4
ils ont 4 titres,
2019, c'est énorme. Déjà 4
ils
boucliers 4 de Coupes d'Europe, c'est déjà
championnats.
Énorme.
4 titres de champion de France.
Oui,
et c'est des joueurs qui ont 26 ans pour 27 ans Antoine Dupont, 24 ans pour Romain Tamac. Vous imaginez, c'est une génération qui se renouvelle avec les jeunes. Donc vous parliez des supporters, peut-être qu'il faut dire aux supporters adverses de prendre leur mal en patience sur les années à venir.
n'est-ce pas pour les supporters rochelais, monsieur?
En tout cas, il y a des supporters toulousains qui sont furieux après Christophe Cessieux. Ils nous appellent au 32-16.
J'ai entendu.
Notamment Vincent. Bonjour Vincent.
J'adore les énerver.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bon Vincent, tu es hors de toi, c'est ça?
Non. Alors moi, je pense que le Stade Toulousain est en position favorable en Coupe d'Europe. Mais attention quand même, La Rochelle, c'est fort devant. Rappelez-vous du match qu'ils avaient fait contre les Stormers, hein, à la moitié de l'Afrique du Sud. Ils avaient fait une deuxième mi-temps très très forte. Ils ont été après les plumes, La Rochelle, contre le Leinster. Il y a toujours aussi le Leinster qui est programmé pour gagner cette compétition. Après, bon, c'est vrai que le Stade Toulousain, ils font toujours de bons recrutements. Rappelez-vous, Willis, on ne savait pas qui c'était il y a 2 ans. Kim Horn, c'est pareil. Ils se retrouvent pratiquement sur 2 joueurs étrangers. Ils sont indispensables, quoi. Et c'est vrai que chaque année, bon, ben, ils arrivent, ils ont le nez creux par rapport à certains recrutements, hein, même les recrutements.
Ils aiment bien aussi aller piquer les forces vives des clubs adverses. Hein. On rappelle que Colombe et que Teddy Thomas, des forces vives du Stade Rochelais,
ils arrivent la saison prochaine.
Donc ils arrivent aussi à affaiblir leurs adversaires en allant leur piquer certains joueurs.
C'est mais pas quand mal, on ça. Parle justement de cette armada toulousaine en se disant mais regardez l'effectif qu'ils ont, enfin franchement, personne ne peut rivaliser. Est-ce que ça leur met pas une pression supplémentaire? Philippe, j'ai l'impression que déjà par rapport à l'année dernière, on attendait au moins un titre, il y en a eu 2. Est-ce que cette année, s'il y en a qu'un des 2, ce sera un petit échec? Non mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on est là-dedans ou pas?
Attends, déjà de faire un doublé, c'est assez exceptionnel. Non mais le gros point fort du Stade Toulousain, c'est aussi qu'ils ont un vivier, ils ont un plan de succession qui est assez exceptionnel et ils ont de très bons joueurs qui appartiennent au Stade Toulousain et qui sont en prêt dans beaucoup de clubs de seconde division. Par exemple, à Provence Rugby, il y a 3 joueurs toulousains qui sont titulaires à Aix-en-Provence et qui appartiennent au Stade Toulousain. Et donc, ces joueurs-là se forment, se développent dans des clubs de deuxième division.
Et dès qu'ils sont prêts?
Et quand ils arrivent à maturité, ils reviennent dans le club. Donc, ils ont mis une organisation, un système. Après, c'est vrai qu'ils sont très intelligents dans le recrutement. Ils recrutent pas énormément, hein. Sur les deux dernières années, c'est 2 ou 3 joueurs par saison, mais c'est ciblé. Ils savent exactement le profil de joueurs qu'ils veulent. Et c'est vrai que là-dessus, ils ne se trompent pas beaucoup.
Ok, mais si on doit choisir, parce que ça vous faisait rire, là, pour les Toulousains, juste, c'est plus important le top 14 ou la Coupe d'Europe cette année?
Ah ben ça c'est une bonne question. Alors ça je te la pose, Philippe. C'est quoi le plus important s'ils doivent en choisir?
Moi je pense que cette génération, ils ont envie de faire la Coupe d'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait le doublé. C'est-à-dire ils n'ont jamais gagné 2 fois d'affilée.
Ok, La Rochelle l'a fait, pas eux, voilà. Back to back.
Donc je pense que vraiment
de double doublé, Philippe aussi, hein, de doublé top 14.
Ah ouais, après le doublé
de double top 14. C'est un Toulousain d'après. Tant pis. Ok, très bien.
Ouais, mais là c'est encore des cases à cocher.
Là c'est le boulard de boulard.
Merci Vincent d'avoir composé le 32-16 et d'avoir été avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. Wilfried Templier, on te retrouve tout à l'heure pour le match du Stade Toulousain. Tu seras évidemment avec nous sur RMC pour ce grand début en Champions Cup des Toulousains. C'est le moment de vous gâter sur RMC.
Le grand Noël RMC.
Beaucoup de cadeaux sont à gagner sur RMC. PlayStation 5 Pro, iPhone 16, 10 000 euros. Bref, inscrivez-vous tout de suite. C'est maintenant. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16. Sachez qu'il y aura un sapin avec des boules. Et vous, auditeurs, vous choisirez une boule à l'effigie d'une grande gueule du sport, notamment dans cette émission.
Ah bon ?
Et vous remporterez le cadeau associé à l'intérieur. Oui, c'est Noël.
On a une boule avec ma tête dessus. Et
exactement. Ce sera la semaine prochaine, le week-end prochain.
Est-ce que je peux choisir la photo qui est sur la boule ?
Non, non, on choisira pour toi la photo. Rassure-toi, on saura te mettre en valeur.
Il y a des petites boules et des grosses boules.
Oui, merci beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Merci Philippe. Sachez en tout cas...
Le monsieur travaille au Moscato Show.
Ce qui est important, c'est parce qu'il y a... sur la boule, mais à l'intérieur, il y aura le cadeau pour vous les auditeurs, plus de 100 000 euros de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre. On vous attend nombreux. Vous envoyez tout de suite Noël par SMS au 732-16. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Saint-Étienne ce soir et quelques déclarations cette semaine, notamment le gardien de l'OM qui annonce que l'OM doit redevenir la meilleure équipe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André et Jean-Louis Tour, notre chef du foot qui vient de nous rejoindre. Rebonjour Jean-Louis.
Rebonjour.
Tout s'est bien passé ce matin?
Le petit déj était bon?
Ça va, il était bien.
C'était bien?
Comme tous les matins.
Ok, c'est bien de se lever comme ça ensemble en direct de l'Alpe d'Huez parce qu'on se lève, on fait un petit débat Kylian Mbappé, ensuite on va prendre le petit déjeuner, puis on refait un débat derrière.
Tu peux y aller, là
dans les grandes gueules du sport. Non, toi t'es obligé, t'es là pendant 3 heures, c'est dans ton contrat, mon cher Christophe. Sachez que dans une dizaine de minutes, ce sont les GG contre-attaque. Il y a quelques minutes, vous avez essayé de nous vendre votre produit, de nous vendre votre salade. C'est évidemment aux auditeurs de voir si votre salade est assez fraîche pour eux et de voter pour vous pour leur débat préféré. On avait le petit Prost proposé. Connaissez-vous le petit Prost proposé par Christophe Cessieux qui est en tête avec 39% au grand dam de Sarah qui veut nous parler.
Moi, je vais vous parler de la petite Florence Artaud. La petite Florence Artaud aussi, elle est en train de se révéler sur le Vendée Globe.
Ah, tu veux dire que c'est la nouvelle petite fiancée de l'Atlantique?
Exactement.
Violette d'Orange.
Et puis,
elle est arrivée dans l'océan Indien, Violette, ou pas encore?
Elle a passé. Exactement, elle est dans l'océan Indien. Et écoute bien, c'est pas moi qui dis que c'est la petite fiancée. C'est les vieux skippers, les vieux marins qui disent que c'est la petite fiancée et la relève de Florence Artaud.
Mais pour l'instant, t'es dernière, c'est ça que je veux dire.
Oui, c'est pour ça que j'essaie de prendre du temps. Je rame. Moi aussi, je rame.
C'est pas mérité.
Non, c'est pas mieux.
Allez, Philippe, avec Dupont et la Nouvelle-Zélande, tu voulais aussi nous en parler.
Surtout, il veut nous parler.
C'était mieux avant.
De son souvenir.
C'est très bien.
En 94.
C'est toujours pareil.
C'est dans 10 minutes, vous pouvez aller voter, chers auditeurs. Tout autre sujet. Dimanche dernier, Marseille était de retour aux affaires. Une victoire in extremis face à Monaco qui a permis aux Marseillais de redevenir le dauphin du Paris Saint-Germain. Ce soir, l'OM se rend à Saint-Etienne pour reprendre sa place après la victoire de Monaco hier à domicile face à Toulouse. Une place de dauphin qui n'est visiblement que le premier étage de la fusée pour le gardien de l'OM, Geronimo Rulli. Il vise plus grand, il voit plus grand, il rêve plus grand, pour paraphraser l'ennemi parisien. C'est la punchline des GG, c'était au micro d'RMC Sport.
RMC, la punchline GG.
Les supporters peuvent crier, pleurer, avoir peur. On ne changera rien à notre façon de jouer, car on croit en notre technicien, en sa philosophie, et parce que c'est le chemin pour redevenir un jour la plus grande équipe française, car au final c'est ça l'objectif.
C'est ça l'objectif, redevenir la meilleure équipe en France. Faut-il arrêter avec ce genre de déclaration? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Oui, à un moment il faut arrêter.
Sarah Pitkowski?
Mais non, à Marseille, c'est totalement convenu, c'est totalement ce qu'on attend.
Philippe Saint-André?
Non, c'est la beauté du sport.
Ok.
Bah Jean-Louis Tour? Non, bien sûr, comment on peut dire autre chose que non?
Comment on peut dire autre chose que non? Je crois que Christophe Cessieux est appelé à la barre.
Ah ouais.
C'est la crise de la soixantaine, là. Donc il faut que je m'explique.
Bah si tu as envie.
Je sais pas, mais ça sert à combler, oui, ça sert évidemment à faire de l'audience pour Rotten sans flamme, évidemment, parce que quand on monte,
on n'a pas besoin de ça.
C'est tellement nirvana, vous écrasez tellement l'adversaire.
Mais pourquoi tu dis vous, on n'est pas marseillais pourtant, le
duel à distance entre Paris et Marseille, entre
un
Marseille
peu de hauteur,
qui veut
ça.
Redevenir le premier club de France, évidemment, ça fait partie de l'ADN du football français. Mais je trouve que ça sert à rien ce genre de déclaration, surtout qu'elle intervient après un succès. Évidemment, ils ont battu Monaco, donc là d'un seul coup, les Marseillais se sentent pousser des ailes. Mais moi, j'aurais bien aimé les entendre au soir de ce match complètement raté au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. C'est là qu'on veut voir des actes. On veut pas les entendre en conférence de presse. On veut les voir sur le terrain. Et sur le terrain, lorsqu'ils sont justement opposés à leur principal adversaire, ils se liquéfient la plupart du temps. Donc c'est, moi, je veux dire, s'ils
tu en as marre du discours.
Non
mais attends, Christophe, tu dis tout et son contraire. Exactement. Tu dis tout le temps que les footballeurs ne disent rien, qu'il n'y a rien d'intéressant. Quand t'as un joueur qui dit quelque chose d'intéressant, tu le descends.
C'est quoi, bravo, voilà, bah c'est oui, intéressant pareil. De dire on veut redevenir les meilleurs.
Mais tu dis, ils ont des paroles de.
Mais ils parlent dans le vide.
Tu dis qu'ils disent rien. Là, le mec, il s'engage.
Les Apaches, là, il parle dans le vide.
Il a fait du bien à ses supporters. Il motive le PSG. Voilà. Enfin, tu préfères ça.
Mais toi, mais Christophe, qui dit rien, absolument rien. Les exagérations, tu les connais.
Non, pas du tout. On n'exagère pas.
Mais bien sûr que si, vous exagérez comme souvent les gens du Sud. Là, ce que nous dit Géronimo, j'adore ce prénom. Enfin bon, ce que nous dit le gardien aujourd'hui, il est dans la même lignée que De Zerbi, c'est-à-dire que quand De Zerbi est arrivé, lui aussi, il a déclaré, il faut que
l'OM,
que Marseille redevienne
sur le devant de la scène. Mais c'est super de déclarer, mais montrez-nous les trucs sur le terrain.
Mais cette phrase, il faut la prendre en dehors de son contexte sportif.
Défoncé par les supporters marseillais.
Mais il faut le prendre en dehors de son contexte sportif littéral. C'est ce que les Marseillais ont envie d'entendre. Et en plus, je trouve que c'est cohérent que ce soit lui qui le dise, le gardien qui est arrivé.
Il est en pleine euphorie.
Qui a des stats
fantastiques. Il est considéré comme l'un des deux meilleurs gardiens
exactement.
Du championnat de
France. Juste, c'est dommage qu'il ne le dise pas en français. Voilà.
Non, mais c'est juste dommage qu'ils ne le disent pas au lendemain d'une victoire face au
Paris Saint-Germain. Il a des stats incroyables. Il est encensé par De Zerbi. Il est un élément absolument important de l'effectif aujourd'hui. Voilà, il est dans la lignée de l'entraîneur, mais ne le prenez pas de manière littérale. Et en plus, avec cette phrase-là, il se met tous les Marseillais, virages derrière
donc
lui.
C'est de la com'.
Mais non,
donc, c'est
mais de la com'. Et au bout de défaite, on lui rebalance en lui disant va gagner contre Auxerre avant de vouloir redevenir la meilleure équipe de France. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Avec Roberto De Zerbi, ça s'est passé exactement comme ça au début de la saison. On y a cru, concurrencer le PSG. Au bout de trois défaites, on était là à ricaner.
En plus, j'en rêve vraiment que Marseille challenge le PSG et qu'il redevienne le premier club de France. Franchement, j'en rêve. Mais je veux voir des actes sur le terrain plutôt que d'entendre des joueurs qui, à longueur d'année, nous disent « Ah, on veut redevenir et on va redevenir ». Montrez-le sur le terrain et ensuite on verra.
Christophe,
tu interviewais les joueurs avant, tu aimais les bons clients.
Mais il n'y en a plus aujourd'hui des bons clients.
Là, c'est un bon client.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est... Jean-Louis Tour. On va quand même pas reprocher à un sportif de haut niveau de vouloir gagner tous les matchs et d'être en haut. Les intentions dans le vestiaire, qu'elles soient celles-là, de redevenir la plus grande équipe, etc. Mais c'est la base du sport de haut niveau. Moi, il y a rien qui me choque là-dedans. Après, il y a plusieurs niveaux. Que les joueurs, l'entraîneur aient envie d'être la meilleure équipe, c'est leur objectif. Après, ils y arrivent pas, c'est autre chose, c'est un autre débat. Après, les suiveurs, les commentateurs, les supporters, pourquoi pas, là c'est autre chose. Ça me dérangerait un peu plus si des consultants disent Marseille va être l'égal du PSG à la fin de saison, parce que ça c'est pas la réalité. Mais que le sportif de haut niveau se fixe ça comme objectif, je vois absolument rien de choquant. Et qu'il le dise, c'est très bien, qu'est-ce qui va lui arriver? On va lui reprocher après là, dans une émission, mais et alors ça fait quoi? Il met ses ambitions publiquement, et après voilà, c'est un moteur pour les sportifs de haut niveau. Incroyable que vous compreniez pas ça tous les deux.
Jean-Louis, au début de la saison, Roberto De Zerbi, il est arrivé en conférence de presse en disant mais bien sûr que c'est notre objectif d'aller concurrencer le PSG.
Parce que pour lui c'est une évidence.
Toi tu ramènes ça en disant mais après ça fait des débats et dès qu'il perd trois matchs,
c'est toi qui l'as dit,
ça doit pas être un objectif quand ils font cette déclaration d'intention, ça doit pas être un objectif de dire ce que vont penser les médias derrière. Mais les propres supporters, je veux dire, après la défaite face à Auxerre, déjà la défaite face au Paris Saint-Germain a fait très mal, le 3-0 à la pause face à Auxerre a fait beaucoup de mal, et là tous les supporters marseillais se sont retournés vers leur club en disant attendez, mais nous aussi on a commencé à y croire.
Eh ben c'est leur faute. C'est à eux de, s'ils ont envie d'y croire, c'est la responsabilité des supporters, mais il faut pas les reprocher derrière aux vestiaires et aux joueurs d'avoir cette ambition-là. Eux, s'ils sont fait emporter par l'euphorie, etc., entre guillemets, c'est leur faute aux supporters marseillais. Et en même temps, on va pas leur reprocher, c'est la vie d'un supporter d'avoir envie, etc. Mais, Je pense qu'il faut quand même différencier la vision des supporters et des joueurs.
Mais non, mais les joueurs, alors lui, c'est le gardien. Donc c'est
le gardien, ça veut dire qu'il croit au projet.
Rappelle-toi de ce match. Ils étaient tous là, arrivés. Ouais, on va défoncer le Paris Saint-Germain. Ils se sont liquéfiés en l'espace de 5 minutes
et donc,
sur le
alors
terrain.
Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour avoir grâce à tes yeux, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire?
Ils auraient dû dire,
surtout, nous, on joue les 5 premières places et on verra bien, etc. Et là, tu aurais dit,
te mettre de la pression, discours aseptisé, etc. Avant un match comme ça. D'abord, gagne-le
mais
le match.
Mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas gagné le match
contre le PSG. Ensuite, il viendra pérorer devant les micros et devant Jean-Louis Tour le lundi soir.
C'est pas parce qu'ils se sont rajoutés cette pression supplémentaire, comme tu dis, qu'ils ont perdu contre le PSG. Alors, ça n'a rien à voir.
Parce qu'ils
étaient moins bons. Bah oui. Mais ça n'empêche que eux, dans leur motivation et dans leur ressort psychologique, ils ont envie d'être les meilleurs. Et donc, ils ont attaqué le match comme ça. Après, ça marche pas sur le terrain, mais on va pas leur reprocher les déclarations.
Christophe, si t'es un entraîneur, tu préfères un mec comme Rulli qui dit ça.
Toi, avant le match face aux Blacks, tu dis on va les taper les Blacks. Tu disais ça, t'étais pas venu devant vos micros pour dire ça.
T'as envie de gagner d'ailleurs,
parce que vu la rousse que vous aviez pris toujours là.
Mais t'avais envie de le gagner quand même le match.
T'as envie de le gagner.
Oui, donc, mais tu connaissais la valeur des deux équipes à ce moment-là. Donc t'es jamais venu dire
après,
au micro,
c'est du sport.
On va taper les Blacks.
Oui, mais parce que je le savais.
À un moment, il faut quand même être conscient de ta valeur,
non,
de ton niveau.
Voilà, mais Rulli, il croit énormément au projet de l'OM. En disant ça, ça veut dire que lui, il pense que s'il y a de la stabilité, s'il y a un bon recrutement, le club peut y arriver. Il faut mieux qu'un gardien et un joueur important, et peut-être le meilleur joueur actuellement de l'OM, dise ça, qu'ils disent non, nous, on va finir sixième cette année.
Mais il y a un juste milieu, évidemment. Vous faites ceux qui n'arrivent pas à comprendre. On vous demande pas. Oui, on va essayer de terminer dans les 18 premiers de la Ligue 1. C'est évidemment pas ça qu'on attend de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, vous le savez, à minima, doit être sur le podium chaque année de la Ligue 1. Et doit essayer de combler son vide avec le Paris Saint-Germain. Oui. Mais souvent, ces déclarations d'intention, mais comme le OM Champion Project, le Dortmund Project.
Pas pareil.
Ouais, pourquoi? Alors pourquoi?
Parce que ça vient d'un président qui fixe une politique sportive, qui pour le coup est sans doute une erreur par rapport au football français, à la Ligue 1, aux forces en présence. Là, on parle de motivation, de sportifs de haut niveau, encore une fois, et de ce qui se passe dans un vestiaire.
Mais de toute manière, Roulet a complètement compris comment marchait Marseille.
Mais
c'est
oui.
C'est-à-dire que tu donnes à bouffer à tes supporters en leur disant.
Il a été bon.
Mais c'est ce que je disais.
Les supporters, ils vont le bader. Bon, après, il ne faut pas qu'il prenne 3 buts.
Mais d'accord.
Sur le prochain match.
Mais en tout cas, il a réussi son coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un des joueurs qui est le plus apprécié des supporters marseillais. C'est pour ça. Et quand on dit le plus grand club, ça ne veut pas dire gagner tous les matchs. C'est le rayonnement du club. On sait qu'aujourd'hui, un club de foot gagne aussi de l'argent par la vente des maillots, par son aura, par son image. Et revenir...
Mais quand il parle de redevenir le meilleur club français, c'est d'être au-dessus du Paris Saint-Germain.
Ouais,
quand même. C'est
pas
de vendre des goodies.
Mais tu peux le voir comme ça. Mais on sait très bien que cette phrase-là, elle est à prendre dans une considération plus large. En tout cas, je trouve qu'à Marseille, tu le dis, si t'es à Lille ou si t'es, je sais pas à quel autre club je pourrais te dire, ou à Monaco, ça fait pas le même écho en fait. Tout simplement, ça correspond à l'exagération des Marseillais et des supporters. Donc moi, ça me choque absolument pas.
Bon, en tout cas, ce soir, on n'a pas dit que ça nous choquait. On se demandait s'il faut arrêter avec ce genre de déclaration.
Eh ben non.
Ok, on a bien compris votre position.
Tu vois, ça aurait fait un sujet en moi s'il n'y avait pas eu. On n'aurait pas parlé de l'OM si Jérôme Geronimo n'avait pas fait
autre chose sur l'Olympique de Marseille. C'était au micro Florent Germain sur RMC Sport. Vous pouvez aller retrouver ça sur rmcsport.fr. Saint-Etienne-Marseille, c'est le grand match ce soir à vivre sur RMC.
En levé ou en baissé de rideau alors
on
là, j'ai pas bien compris.
Il fallait écouter à 2h45 l'émission, c'était il y a une heure. Vous retrouverez
le petit déj de Jean-Louis. Avant
vous retrouverez.
Retourne au petit déj.
À partir de 20h, Jean-Louis Tour. Oui. Donc pour la grande soirée, Jean-Louis,
exactement.
Ce soir.
Je suis aussi dans Stephen Brunch et dans Bartoli Taille.
D'accord.
Avant la grande soirée.
T'as une belle journée, Jean-Louis.
Exactement. En direct de Geoffroy Guichard, comme tous les dimanches soirs, au stade. On va se régaler.
Mais c'est bien, c'est que ta tenue de ski, tu pourras la remettre ce soir.
Et c'est prévu, Sarah, exactement.
Et en cas de victoire ce soir de l'Olympique de Marseille, Marseille redeviendrait deuxième de notre championnat, dauphin du Paris Saint-Germain. Merci, Jean-Louis, d'avoir été avec nous dans les grandes gueules du sport. On te retrouve très vite, vous l'aurez compris, sur RMC. Allez, à tout de suite pour les GG contre-attaque. Qui a gagné? Est-ce que c'est Christophe, qui était leader? Est-ce que c'est Sarah Pitkowski qui râle déjà, qui jette ses lunettes, ou Philippe Saint-André qui prend ça normal pour un goré? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48 de retour dans les grandes gueules du sport en direct à la radio mais également sur la chaîne YouTube d'RMC Sport. Vous pouvez admirer les grandes gueules du sport ce matin. Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Philippe Saint-André. Dans une dizaine de minutes, nous allons parler des exploits à partir de 11h, des exploits du Paris Basketball qui vraiment enchante tout le monde, premier d'Euroleague avec une nouvelle salle. Est-ce un tournant pour le basket français? On se posera la question, Stephen Brun sera avec nous. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les GG.
RMC, les GG contre-attaque.
Peu importe le débat, Christophe Cessieux gagne extrêmement souvent. Bravo Christophe, tu as encore remporté.
Il y a toujours à la fin.
Les GG contre-attaque. Tu nous as proposé le petit Prost. Ouais. Tu voulais parler de là, ce jeune. Là,
je note de la tristesse sur le regard de mes deux adversaires du jour. Et donc, je pense qu'il vaut mieux. Alors, je pense que ceux qui ont voté pour moi vont être déçus. Mais je pense que l'histoire de Isaac Adjar, dont je voulais vous parler ce matin, ça peut faire l'objet d'un vrai débat d'une demi-heure la semaine prochaine, peut-être à la place de Kylian Mbappé, tu vois. Si tu me promets que la semaine prochaine on ouvre sur Isaac Adjar, là je
tu veux bien remettre ta victoire en jeu.
Ouais.
OK, et bah, je te promets qu'on fera un grand débat. Non, je suis pas un lama. Pas du tout.
Et donc alors là je suis très partagé parce que les deux débats m'intéressent, les deux.
Ah donc voilà, donc c'est une première dans l'histoire, tu refuses ta victoire.
Je refuse ma victoire.
OK, et tu vas donc attribuer une victoire soit à Philippe, soit à Sarah.
Ça dépend qui a la plus grosse valise.
Okay. Moi, j'ai pas grand chose. C'est la beauté du geste pour moi, Christophe,
Sarah, on a travaillé. Bah, avec Philippe aussi, on a travaillé.
Mais bon,
avec Sarah, on a présenté les grandes gueules du sport. À la place, c'était quand même autre chose à l'époque, tu te rappelles ça?
C'était plus profond.
J'ai envie d'écouter l'histoire de la petite Violette.
Okay.
Elle m'a donné envie, là. Elle m'a
C'est magnifique.
Eh bien, vas-y, Sarah, tu voulais nous en parler ce matin. Elle fait une véritable. Enfin, elle crée la sensation plutôt lors de ce Vendée Globe.
Et oui, parce que Violette d'Orange, c'est l'histoire de la Benjamine de ce Vendée Globe qui est à bord d'un vieux bateau sans folle qui est alors. C'est pas une histoire de classement parce qu'elle est elle est dans le dernier quart de ces 40 bateaux qui ont pris le départ du Vendée Globe, mais c'est devenu la plus grande attraction de cette édition. Alors à 23 ans et 8 mois, la petite skipette du Vendée Globe, Yvan Bourgnon la nomme aujourd'hui la successeuse de Florence Artaud. Son histoire est juste incroyable parce que à 23 ans, tu te présentes pas au Vendée Globe en ayant fait deux courses. Non, elle a un véritable palmarès. En tout cas, c'est une véritable navigatrice. Elle a une mini Transat, 3 solitaires de Figaro à son actif, une Transat Jacques Vabre et la fameuse qualification pour le Vendée Globe. Tu es obligé de participer à des traversées comme la Transat CIC ou la New York Vendée Globe Vendée les Sables d'Olonne. Donc elle s'est qualifiée comme tous les bateaux. Et encore, il y a moins de 10 mois, elle avait juste 50% de son budget. Elle a un tout petit budget. Aujourd'hui, elle est Elle a un grand bateau. Elle a le bateau de Jean Le Cam, l'ancien bateau de Michel Desjoyeaux. Il y a un bateau avec une histoire. D'ailleurs, ce bateau, elle l'a renommé. Il s'appelle Devenir, véritablement. Donc, elle a un projet à long terme. Et cette jeune femme qui... toute seule, entourée de sa famille, est allée chercher son budget d'1,3 million. Elle en avait à peine 50% au premier trimestre de l'année 2024. Elle part sur les pontons du Vendée Globe et en l'espace de moins d'un mois, elle est partie, mais en fusée, c'est-à-dire qu'on suit son quotidien avec sa fraîcheur, avec son décalage, avec sa naïveté, où elle dit quand elle a peur, parce que là, véritablement, passé le cap de Bonne Espérance, elle dit qu'elle avait la trouille, ils ont subi des dépressions avec des creux énormes, et là, il y a à peine 24 heures, et on la voit déboucher sa petite canette, et pas une bouteille de champagne, sa petite canette en disant, ça y est, je l'ai fait, je rentre dans les mers du Sud. Et cette jeune femme, elle est devenue une véritable petite star. Elle a pris 300 000 followers supplémentaires en moins d'un mois. Aujourd'hui,
sur les réseaux sociaux.
Alors nous, je suis pas sûre que nous soyons la génération TikTok, mais pour ceux qui la suivent sur TikTok, c'est extraordinaire. Et donc en fait, cette jeune femme, c'est pas tant le classement qu'elle va faire, c'est véritablement de rêver et d'inspirer parce qu'elle réalise le rêve de sa vie. Elle, on la reverra probablement dans 4 ans avec un bateau plus performant. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une jeune femme à suivre et je vous assure que ça donne, voilà, ça donne de l'inspiration et c'est ce qu'elle veut hein, aujourd'hui. C'est donner envie aux gens de réaliser ses rêves au point même que Disney l'a prise comme ambassadrice du nouveau dessin animé qui est en train de sortir, qui s'appelle Vaiana. Donc en fait, voilà, c'est une jolie petite princesse et je veux pas me mettre à la place de ses parents. Je sais pas comment ils font pour dormir depuis 28 jours.
Ça, je suis bien
et
d'accord.
Ils en ont encore 60 à tenir.
23 ans, c'est fou. Hein. C'est, Violette
c'est,
d'Orange.
Exactement. Mais, c'est la plus jeune skipette au départ, si j'en développe. On dit skipette, absolument.
Elle est fraîche et en plus, elle explique son quotidien en permanence et c'est assez exceptionnel. Par contre, c'est sûr que j'aimerais pas être son père. Hein.
Oui, absolument.
Parce que elle explique ses peurs. Elle, à un moment donné, elle a dit, je vais éviter ça parce que les vagues sont à 4-5 mètres. Après, là, j'ai gagné du temps. Là, j'ai du vent et tout. Elle explique tout. Elle explique son quotidien, ce qu'elle mange.
Oui, mais c'est, comment elle arrive, ces plats à pertiser, comment elle n'arrive pas à les réchauffer et puis comment elle essaie de prendre soin de ses cheveux. Enfin, bon, finalement, des choses un peu basiques.
Elle a un livre aussi sur les chiens, etc. Donc, elle est en train de dépoussiérer un peu.
Exactement. Et moi, je voulais vous poser la question, est-ce que ça vous donne une forme de nostalgie de ces marins un peu bourrus, barbus, où finalement on n'avait que peu d'informations sur leur Vendée Globe. On est ici avec Marc Tiercelin qui est avec nous sur les RMC Sport Games et finalement est-ce que on a envie de tout savoir ou est-ce que ce côté un peu secret finalement de ces aventures où on ne connaît pas tout, est-ce que ça les rend plus mystérieux? C'est là où moi j'ai un doute, je sais pas. J'aime les anciennes histoires et j'aime les histoires d'aujourd'hui.
Mais tu lances un débat, Sarah, qui pourrait nous tenir au moins 10 ou 15 minutes et nous n'avons plus qu'une minute sur Violette d'Orange et on en reparlera évidemment du Vendée Globe. Mais est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que ça peut attirer la jeune génération aussi à ce sport c'est compliqué. Enfin, c'est pas le sport évidemment par excellence.
Le plus abordable, oui.
Le plus abordable que l'on peut pratiquer.
Sûrement, parce qu'elle touche cette génération avec TikTok, avec Instagram, avec Twitter, avec les réseaux. Et je pense que oui, que plein de jeunes s'identifient et la suivent et suivent son aventure.
Oui, et il y a des comparaisons avec un autre Everest qu'a monté Inoxtag, qui est un YouTuber. Donc en fait, c'est cette jeune génération. Ils ont besoin de modèles et je pense que ce genre de personnes sont aussi des modèles.
Et on suit attentivement évidemment son parcours. Toutes les dernières informations sur le Vendée Globe, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. Bravo mon cher Christophe d'avoir laissé
Merci
la victoire
Christophe.
À Sarah. C'était très intéressant,
je t'aime,
Sarah.
Christophe.
J'aurais bien aimé entendre Philippe quand même nous parler de
cette victoire en Nouvelle-Zélande. Tu peux le faire au café après.
Pendant la pub, c'est pas l'école des fans, on peut pas dire oui à tout le monde.
Les auditeurs auraient bien aimé entendre ce...
Bah, tu sais quoi ? Là, on va parler de basket. C'est rare dans cette émission. Le Paris Basketball qui cartonne en Euroleague. Encore un exploit. C'était vendredi soir sur le parquet de l'Olympiakos. Stephen Brun sera avec nous. Est-ce un tournant pour le basket français ? Tout ce qui se passe autour de ce Paris Basketball. À tout de suite sur RMC.